Je voudrais peut-être, pour commencer, rappeler quand même quelques notions sur le contexte socioculturel dans lequel se déroule aujourd'hui la prise en charge des enfants autistes et ce contexte socioculturel qui est celui aussi dans lequel se déploie la pédopsychiatrie en 2010. Les sociologues, comme Jean-Yves Barrère en particulier, nous ont bien montré que entre les années 70 et 2010, la demande du corps social, la demande du socius à l'égard de la pédopsychiatrie a beaucoup, beaucoup changé. Je ne suis pas du tout dans l'idée de dire c'était mieux, c'était moins bien, c'est mieux, c'est moins bien, mais d'essayer de comprendre l'évolution des choses, parce que qu'on le veuille ou non, qu'on le sache ou non, le contexte socioculturel imprègne aussi nos pratiques. Il a un effet sur nous. Donc il vaut mieux être dans l'explicite, je crois, que dans l'implicite. Le contexte socioculturel a beaucoup changé, puisque dans les années 70, au fond, il y avait trois grands thèmes qui dominaient. Moi, j'appelle ça un petit peu les trois S. Il y avait la question du secteur, la question du sujet, et la question de la souffrance psychique des enfants, enfin, ou des personnes. Les années 70 ont été la grande époque de la mise en place des secteurs de psychiatrie générale et psychiatrie infanto-juvénile. C'est un modèle qui, bien sûr, tenait compte des enseignements, si on peut dire, de la Deuxième Guerre mondiale, qui voulait que la psychiatrie de l'enfant en particulier, se déploie hors les murs pour échapper à la notion d'enfermement et à toutes les dérives concentrationnaires qu'on avait pu vivre auparavant. Et il y avait, bien sûr, dans la mise en place de ces secteurs, un souci démocratique, avec l'idée de fournir aux différents territoires du pays des équipements un peu comparables en termes de consultations, hôpital de jour, dispensaires, etc. Voilà, donc aujourd'hui, donc la politique du secteur. Deuxièmement, dans les années 70, ces années qui ont donc vu naître les secteurs de psychiatrie générale, les intersecteurs de psychiatrie d'enfants et d'adolescents, comme on disait à ce moment-là. À cette époque-là, on était encore dans la mouvance des idées structuralistes et la notion de sujet était extrêmement importante. Quel est le sujet de la maladie mentale? Qui parle? D'où ça parle? Etc. On parlait beaucoup du sujet, on en parle moins aujourd'hui, je vais y revenir. Et la troisième axe de réflexion, la troisième thématique importante était celle de la souffrance psychique. On s'intéressait, me semble-t-il, à l'époque, plus à la souffrance psychique qu'aux symptômes de manière isolée. Alors aujourd'hui, 40 ans après, les choses ont beaucoup changé. La politique de secteur a été menée assez loin. Bon, il y a encore des disparités, bien sûr, d'un secteur à l'autre, mais elle a été menée assez loin. Elle s'essouffle un petit peu aujourd'hui dans le climat de crise et de pénurie, puis aussi parce que un certain nombre de thématiques demandent des aménagements transsectoriels qui sont très intéressants, mais qui risquent parfois de rivaliser un petit peu avec la politique sectorielle proprement dite. En tout cas, moi j'ai envie de rappeler que c'est un système que le monde entier nous a envié, que le monde entier nous envie encore, qui a permis des avancées considérables dans l'accessibilité aux soins d'une population, et qu'il faut peut-être faire attention de ne pas trop vite sacrifier ce dispositif. J'y insiste parce qu'un certain nombre de mesures proposées aux enfants autistes, je pense par exemple au système Teach, l'ont été dans des pays où il n'y avait pas de dispositif sectoriel. Et que la question ne se présente pas du tout de la même manière quand on veut introduire ce type de dispositif, de ce type de mesure dans un pays où il y a déjà tout un tissu de soins, toute une offre thérapeutique et de prise en charge. Je pense que Teach en Caroline du Nord, c'était mieux que rien. Mais Teach dans un dispositif sectoriel nécessite des réflexions soigneuses. Voilà, donc on parle moins de sujets aujourd'hui. La notion de sujet, d'ailleurs, est quelque chose de difficile, hein. Pour les philosophes aussi, la question du sujet est un petit peu à éclipse, ça va, ça vient. C'est aussi compliqué, aussi délicat que la notion de personne. Et aujourd'hui, c'est surtout pour le bébé qu'on parle de personne, en disant depuis Martineau, le film de Martineau en 1975, le bébé est une personne, et justement non. Le bébé est une personne en devenir, sinon il n'y aurait pas de place pour le développement et la maturation. Donc la notion de sujet et de personne subsiste justement pour un individu pour lequel c'est un petit peu sujet à caution, si j'ose dire. Et c'est encore plus sujet à caution quand on dit personne avec autisme, puisque justement les enfants autistes ont bien du mal à se constituer en tant que sujet et en tant que personne. Alors on est dans une langue de bois assez paradoxale sur ce point. Troisièmement, on parle moins aujourd'hui de la souffrance psychique, on parle beaucoup plus de symptômes à raboter. Les projecteurs médiatiques se focalisent successivement par alternance sur les TOC, sur les TIC, sur les TAC, troubles d'apprentissage, de la coordination, sur la DHD ou le TADA pour l'hyperactivité, sur les abus sexuels, sur la violence, sur l'autisme, sur l'hyperactivité. Bon. On est dans un système où on sent bien que la société, le groupe social, a assez peur des fonctionnements inhabituels des enfants qu'elle élève, en oubliant un petit peu que les enfants peuvent aussi avoir très très peur de la société dans laquelle on veut les faire vivre. Enfin, c'est pas tout à fait le sujet d'aujourd'hui. N'empêche que les 3S se sont un petit peu estompés et qu'aujourd'hui, tout le débat sur l'autisme vient donc s'inscrire dans un paysage où la politique de secteur a un petit peu de mal à continuer à se déployer, où la notion de sujet a disparu et où la notion de souffrance s'est estompée. Donc il faut avoir ça en tête, je crois, pour penser à la suite du propos que je voudrais tenir. Maintenant, je voudrais dire quelques mots sur la place que la pédopsychiatrie me semble devoir continuer à occuper dans le champ des troubles envahissants du développement. Et évidemment, j'ai été très marqué par la lecture du dernier livre de Jacques Hochmann sur l'histoire de l'autisme en France, qui est vraiment un document remarquable par les informations et par la profondeur de la pensée qui s'y trouve. D'abord, je veux dire un petit mot sur la dérive terminologique. Puisque on nous a demandé, dans les années 95-96, de ne plus parler d'autisme, mais de troubles envahissants du développement, et de considérer que les troubles envahissants du développement ne faisaient plus partie du champ de la maladie mentale, mais du champ du handicap. Petite parenthèse pour dire que il faut vraiment que ce soit les psychiatres à qui on ait pu dire ça. Parce que imaginons que l'État vienne dire au cardiologue l'infarctus maintenant ne s'appelle plus comme ça, et maintenant pour traiter l'infarctus il faut faire comme ci ou comme ça, l'ensemble des cardiologues seraient dans la rue en blouse blanche à faire la grève. Donc l'État nous a imposé un changement de terminologie, imposé un changement de rattachement conceptuel au handicap et non pas à la maladie mentale, et enfin aujourd'hui l'État prétend nous imposer des recommandations de bonnes pratiques en matière d'autisme infantile. On est là dans quelque chose qui pose vraiment un problème de politique de santé. Est-ce que l'État est là pour nous dicter nos contenus d'action, ou est-ce que l'État est là seulement pour nous donner des contenants à nos actions, ce qui me paraît effectivement très souhaitable, mais pas de venir nous dicter nos actions. Nos actions doivent être spécifiques de chaque enfant. Chaque enfant est l'après-coup d'autres prises en charge qui ont eu lieu avant, et on ne peut pas fonctionner avec les enfants autistes avec des guidelines a priori et toutes faites. Donc si on veut préserver quelque chose du vif de notre rencontre avec les enfants autistes, eh bien, il faut avoir une certaine liberté dans la stratégie thérapeutique, dans nos choix thérapeutiques, et je ne pense pas qu'en ce moment on soit dans la bonne direction pour ceci. Alors, d'autant moins dans la bonne direction qu'on assiste aujourd'hui, c'est ce que je voulais dire, à une dérive terminologique. L'autisme a cédé d'abord la place au terme de TED, trouble envahissant du développement, et aujourd'hui on veut nous faire raisonner en termes de TSA, trouble du spectre autistique, où on range en vrac les différents types de troubles envahissants du développement, c'est-à-dire les troubles selon DSM-4, c'est-à-dire les troubles envahissants du développement typiques, l'autisme de Kanner, extrêmement rare, il faut le rappeler. Les troubles envahissants du développement atypique, parmi lesquels Rett, qui n'a rien à faire là, Asperger, dont on se demande si ça existe, et les divers troubles désintégratifs plus ou moins flous. Et troisième rubrique, les troubles envahissants du développement non spécifié, terme que certains parents, qui étonne un certain nombre de parents, qui se disent alors il faut vraiment toute une batterie aussi compliquée d'évaluation et de bilan pour arriver au diagnostic moderne de troubles non spécifiés. Certains parents disent, mais de qui se moque-t-on ? Alors, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là, mais effectivement, si on met dans le même sac les TED typiques, les TED atypiques et les TED non spécifiés, on arrive, paraît-il, à une fréquence d'un enfant sur 100 ou 150. Je viens de lire une fréquence d'un sur 64 enfants en Angleterre, qui est à l'opposé des 1 ou 2 cas pour 10 000 enfants qu'on a d'abord décrit pour l'autisme infantile dans les années 43, 45, 50. Est-ce qu'il y a une épidémie d'autisme infantile ? Je ne le pense pas. Certains papiers étaient sortis sur cette question, notamment il y a une dizaine d'années sous la plume d'Éric Fonbonne qui posait véritablement la question. Il n'y a sans doute pas d'épidémie d'autisme infantile, ni de TED, mais il y a une dénomination plus large du fait du DSM-4, et il y a surtout le fait d'entasser trois grandes rubriques qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, les TED, je le redis une dernière fois, les TED typiques, les TED atypiques et les TED non spécifiés. Je suis de ceux qui pensent que l'autisme, au sens strict, demeure extrêmement rare. Peut-être qu'il y a déjà beaucoup d'enfants autistes à prendre en charge et qu'on n'a peut-être pas encore bien tous les moyens pour le faire. Mais malgré tout, personne n'a intérêt, je crois, à mélanger tous ces types de pathologies. Les progrès de la nosologie depuis 20 ou 30 ans avaient été dans le sens de la distinction entre différentes formes de pathologies. Et là, il y a une véritable régression nosologique à vouloir remélanger tout. On n'est plus du tout dans une perspective scientifique, on est dans une perspective de lobbying, parce qu'évidemment, si on prétend que telle ou telle technique pédagogique ou éducative spécialisée est valable pour un enfant sur 100 ou un enfant sur 150, on voit bien les enjeux qui sont derrière, qui sont des enjeux commerciaux et qui ne sont en rien des enjeux scientifiques ou cliniques. Voilà, donc moi je m'inscris résolument en faux contre cet amalgame, cette confusion des différents types de TED et qui nous gêne, à ce moment-là, pour répondre à la question qui m'est posée aujourd'hui, quel type de prise en charge pour les enfants autistes ? Quel type de prise en charge pour les enfants autistes ? Mais ce sont des types de prise en charge. Le raisonnement vaut pour les enfants autistes, il ne vaut pas pour les TED atypiques ou non spécifiés qui posent d'autres problèmes et qui ne sont pas ceux qui ne peuvent pas être mélangés tous ensemble. Voilà. Donc je crois qu'il y a là vraiment quelque chose d'important parce que normalement la science va vers une plus grande précision des catégories qu'elle distingue, alors que là on veut nous faire mélanger différentes catégories qui, je crois, n'ont pas grand-chose à voir les unes avec les autres. Un dernier point à propos de la place de la pédopsychiatrie dans le champ actuel de ces prises en charge. J'ai le privilège, sans doute, de travailler dans un centre hospitalo-universitaire à Necker, à Paris. Donc je sais bien que les centres hospitalo-universitaires dans leur ensemble sont poussés vers l'évaluation, au détriment du soin. Et là aussi, il faut qu'on fasse très attention. L'évaluation est très importante, le dépistage précoce, le diagnostic, bien sûr, est très important. Mais aucun lieu hospitalier ou hospitalo-universitaire n'est fait pour faire que de l'évaluation. Il y a une tentation de laisser le soin, une tentation très, très dangereuse de laisser le soin à d'autres. Le soin et l'évaluation doivent être croisés de manière très très serrée. On ne fait pas l'évaluation pour le plaisir de faire l'évaluation, on fait de l'évaluation pour ensuite décider des orientations thérapeutiques, faire des choix, organiser des stratégies thérapeutiques. L'un ne va pas sans l'autre. Et quand j'entends des gens me dire « mais si tu veux faire du soin, il fallait pas choisir le centre hospitalier universitaire », je trouve ça extrêmement triste, tout simplement. Voilà, alors, tous ces rappels étant faits, et je vais maintenant me centrer vraiment sur les enfants autistes, au sens où je l'entends de trouble envahissant du développement typique, finalement assez proche de la description exemplaire que Kanner a donnée dès 1943, eh bien, je voudrais rappeler deux choses qui vont organiser mon propos maintenant. C'est que l'autisme infantile, les différentes formes d'autisme infantile, mais au sens typique du terme, répondent très probablement à un modèle polyfactoriel, et appelle donc impérativement une approche multidimensionnelle. Le modèle polyfactoriel qui nous aide à repérer les différents déterminants, les différents types de déterminants possibles, les facteurs de risque, les facteurs de déclenchement, etc. Pourquoi se priver d'une porte d'entrée? Serge de Movici disait souvent, la psychanalyse n'a absolument rien à craindre des avancées formidables actuelles des neurosciences, elle les attend même avec impatience. Toute nouvelle porte d'entrée dans un modèle polyfactoriel est une nouvelle façon d'essayer d'entrer dans le soin. Mais en revanche, qui dit modèle polyfactoriel dit obligatoirement prise en charge multidimensionnelle, c'est-à-dire que si le tout thérapeutique a échoué, le tout éducatif échouera aussi, et le tout pédagogique également. Il y a une nécessité absolue de tresser, d'intriquer ces trois grands registres du soin, le pédagogique, l'éducatif et le soin psychique proprement dit. Et la deuxième chose que je voudrais plaider aujourd'hui, c'est que il reste une place fondamentale aux psychothérapies dans le champ de l'autisme infantile. Pas au sens d'une psychothérapie causale, mais au sens d'une approche psychothérapique qui permette de partager quelque chose du monde interne de l'enfant autiste, j'y reviendrai tout à l'heure, et pour un enfant autiste, sentir qu'un autre peut partager quelque chose de ses angoisses, c'est déjà du soin, parce que ça veut dire qu'un autre existe, et comme disait Frances Sustin, qu'un autre existe qui n'est pas menaçant. Tout le problème est là, quel que soit le dispositif de prise en charge qu'on choisisse, au fond l'objectif est toujours le même, c'est faire sentir à un enfant autiste qui s'est enlisé dans les processus d'accès à l'intersubjectivité, lui faire sentir qu'en dépit de tout, un autre existe et qui n'est pas menaçant, c'est aussi simple, mais aussi compliqué que ça. Et à propos de l'autisme, je crois qu'en 2010, personne ne peut donner un modèle cohérent des causes de l'autisme infantile. Chacun commence à avoir des éclairages sur des facettes distinctes. Personne n'a le monopole d'un modèle étiologique cohérent et complet. Donc il faut entrer par les différentes portes. Et la psychothérapie est essentielle parce que, je vais faire aussi dans un instant, être autiste n'est pas une partie de plaisir. Et sortir de l'autisme non plus. Donc en dehors de toute action sur la ou les causes supposées, il y a à accompagner les enfants autistes dans leur souffrance et à les accompagner dans l'émergence de leur coquille autistique, qui est également un processus douloureux. Voilà, alors, avant d'aller plus loin, juste un mot pour dire qu'en 96, c'est Simone Veil qui, avec une certaine sagesse, a décidé la mise en place des centres ressources autisme dans les différentes régions. Les centres ressources autistes qui se sont donc progressivement installés. Moi, avec d'autres, bien sûr, j'ai participé très activement à la création du centre ressources autisme Île-de-France. Je fais encore partie du conseil d'administration de ce centre ressources autistes, et je trouve que ce sont des lieux très intéressants de réflexion entre parents et professionnels sur... il y a différentes missions. Il n'y a pas que le dépistage et l'évaluation, il y a aussi les autistes adultes, il y a aussi la prise en des missions d'information, de documentation, de formation. C'est des lieux qui ont, je crois, quand même beaucoup changé les choses depuis donc une quinzaine d'années. J'ai envie de rappeler que l'idée initiale, c'était d'équilibrer les différents types de prise en charge. En 1995-1996, on était à nouveau à l'époque, dans une période un peu de tension entre les parents et les professionnels. Et Simone Veil, au fond, a voulu marquer l'idée suivante, l'idée que la prise en charge d'un enfant autiste est l'œuvre de longues années. C'est une trajectoire. À certains moments, les parents peuvent avoir envie de privilégier le pédagogique, à d'autres moments de privilégier le soin, à d'autres moments de privilégier l'éducatif ou le rééducatif, à d'autres moments d'essayer de faire tout ensemble. Et le rôle de l'État, parce qu'à l'époque, elle avait une vision de l'État comme nous devons nous fournir des contenants d'action. Et les centres ressources autisme, leur rôle initial était de veiller à ce que dans chaque région, il y ait un équilibre de moyens entre ces trois grands registres de prise en charge, je le redis, la pédagogie, l'éducatif et le soin, pour qu'ensuite les parents aient la liberté de faire cheminer au sein de ces différents registres. Voilà, donc aujourd'hui, il faut vraiment essayer de ne pas céder aux sirènes du clivage. Un enfant autiste, modèle polyfactoriel, approche multidimensionnelle, a besoin qu'on intervienne dans ces trois registres, et pas seulement dans un seul. Encore une fois, le tout psychanalytique a échoué, mais le tout éducatif échouera de la même manière. Jack Hockman a souvent dit que ne faire qu'apprendre ne sert à rien, le soin seul ne sert à rien, soigner permet d'apprendre, apprendre fait du bien, et il faut intriquer les différentes démarches. Alors, peut-être un premier mot sur l'école, parce que personnellement je me sens très très proche du combat des parents pour la scolarisation. Il y a eu en 2005, une loi sur le droit des enfants autistes à être scolarisés, et rien n'a changé, ou presque, depuis. Et au point d'ailleurs que quelqu'un comme Jean-Claude Ameisen, notamment dans le cadre de la saisine numéro 102 du Conseil consultatif national d'éthique, a rappelé que c'était pas tout de faire des lois en France, mais qu'après il faut les appliquer. Et que quelque part, le citoyen a aussi, on doit assurer au citoyen le droit au droit. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour l'enfant autiste, les enfants autistes, et ce qui fausse beaucoup nos relations avec les parents, les professionnels avec les parents. Aujourd'hui, je pense à certaines régions d'Italie. L'Italie est moins centralisée que notre pays, donc c'est ce que je vais dire là pour certaines régions d'Italie, n'est pas vrai pour toute l'Italie, mais pour certaines régions d'Italie, quand un enfant autiste est scolarisé, s'il est encore très autiste, il va dans un système un petit peu comparable à nos CLIS, mais les deux adultes, l'enseignant et l'AVS ou l'équivalent de l'AVS, sont véritablement formés à des techniques éducatives et pédagogiques pour les enfants autistes. Si l'enfant est déjà un petit peu plus émergé de l'autisme, il peut être intégré dans une classe normale, tout venant, mais à ce moment-là, l'effectif de la classe est immédiatement rabaissé à 12 ou 15 enfants, et l'enseignant, qui n'est pas spécialisé forcément pour les enfants autistes, se voit adjoint l'aide d'une AVS ou d'un équivalent d'AVS qui, lui, est bien formé. On est très loin de ces conditions-là aujourd'hui. Et quand les parents nous disent « Mais alors, vous ne scolarisez pas nos enfants, vous ne voulez pas qu'ils soient scolarisés. » Si, nous voulons bien qu'ils soient scolarisés, mais dans les conditions que je viens de dire là. Si c'est pour plonger un enfant autiste dans un groupe de 30 ou 35 enfants, avec soit pas d'AVS, soit une AVS et une enseignante mal formée ou pas formée à l'autisme infantile, on sait très bien ce que ça donne. Ça donne une accentuation majeure des angoisses autistiques de l'enfant. Donc là, il y a vraiment une partie à jouer par l'État, par l'éducation nationale, qui n'a pas été jouée, et il faut que l'État la joue. Alors évidemment, ce n'est pas en diminuant massivement le nombre d'enseignants qu'on va dans la bonne direction, notamment dans le primaire, puisque les CLIS concernent les primaires, les UPI ou les ULIS maintenant, le secondaire. Mais on a besoin que l'État joue cette partie-là. Je passerai le temps qui me reste à travailler à lutter pour ça, parce que si les enfants allaient en classe toute la journée dans de bonnes conditions, le débat avec les parents serait tout à fait différent. Un enfant autiste n'est pas autiste simplement 5 fois par semaine. Si on lui propose 2 séances de thérapie, 2 séances d'orthophonie, 1 séance de psychomotricité, qu'est-ce qui se passe entre les séances? Il est toujours autiste. Et aussi intensive que puisse être cette aide-là, parce que 5 séances, 5 interventions par semaine, c'est déjà pas si mal, eh bien, paraît dérisoire aux parents. Les réponses dérisoires sont encore plus blessantes que pas de réponse du tout, parfois. Donc, nos réponses en termes d'action professionnelle, orthophonie, psychomotricité, méthode éducative, psychothérapie individuelle ou pas, etc., ne peuvent être reçues de manière constructive par les parents que si le reste du temps, l'enfant est pris en charge quelque part. On a besoin, nous avons besoin que les enfants autistes aillent à l'école, mais dans des conditions qui soient respectueuses de leur souffrance psychique, c'est-à-dire dans des classes à petits effectifs, et avec des enseignants et des AVS spécialement formés pour ça. Or, on voit aujourd'hui l'État se désengager de la formation des AVS et remettre cette formation à des entreprises ou des associations qui ne sont pas véritablement contrôlées, contrôlables, et qui sont souvent privées aussi. Alors, on assiste à quelque chose de vraiment très pénible, qui est de penser qu'aujourd'hui, pour être autiste, non seulement quand on est autiste, il faut être riche. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas aller vers un système où seuls les enfants de milieux aisés, les enfants autistes de milieux aisés, bénéficieraient d'une AVS toute la journée à l'école. Il faut que l'État prenne véritablement en main ses responsabilités. Les enfants ont besoin d'être scolarisés, y compris dans les écoles publiques, dans des conditions dignes de ce nom et de leurs difficultés. Et l'État a besoin d'assurer de prendre ses responsabilités en matière de formation des enseignants et des AVS sur le plan de l'autisme infantile. Je ne pense pas que je puisse être plus clair et énergique sur ce point. Alors, dans la dernière partie de mon propos, je voudrais tout doucement aller vers la question du soin psychique. Et je redis que je ne préconise en rien le soin psychique isolé. Le soin psychique a besoin d'être intriqué à une scolarisation de l'enfant, je n'y reviens pas, mais aussi à des méthodes éducatives ou rééducatives spécialisées. Il faut prendre le problème par toutes les portes d'entrée, encore une fois, dans ce modèle polyfactoriel où les facteurs primaires ne sont que des facteurs de vulnérabilité et les facteurs secondaires des facteurs d'organisation, d'enquistement, de cristallisation ou de fixation. Alors, aujourd'hui, ce modèle est encore loin d'être complet. Aussi psychanalyste soit-on, on sait très bien aujourd'hui qu'il existe une vulnérabilité génétique à l'autisme infantile. Pour autant, je ne suis pas sûr que le terme de neurodéveloppemental soit si clair. Nombre de parents tiennent à désigner l'autisme comme un trouble neurodéveloppemental. Beaucoup de professionnels les suivent sur ce terrain. Je pense que le terme de neurodéveloppemental, pour beaucoup d'oreilles, évoque la notion d'endogène pur. Et je persiste à penser que, avec d'autres, que l'autisme infantile n'est pas un trouble endogène pur. Qu'il s'appuie sur des vulnérabilités incontestables du point de vue de l'enfant, mais que ensuite le cercle infernal de l'autisme va se mettre en place dans le cadre des interactions précoces, et que les réponses de l'environnement, les réponses adéquates ou inadéquates de l'environnement, et c'est très facile d'être inadéquate avec un enfant qui ne s'engage pas dans la relation, mais tout ça participe à l'instauration progressive de l'autisme au cours des premiers mois, premières années de sa vie. J'en profite d'ailleurs pour dire qu'en termes de prise en charge, je ne pense pas qu'on puisse espérer aujourd'hui enclencher des prises en charge dans le premier semestre de la vie, ou peut-être même dans la première année de la vie. Et d'ailleurs, l'ANAES, dans ses recommandations sur le dépistage et le diagnostic précoce, a eu la sagesse de dire qu'en France, compte tenu de notre contexte linguistique et culturel, il faut manier le terme d'autisme avec beaucoup de précautions avant 2 ans. Alors aujourd'hui, je dirais peut-être avant 18 mois, mais en tout cas dans la première année de la vie de l'enfant, bien malin aujourd'hui serait celui qui, devant un enfant de quelques mois qui ne s'engage pas dans la relation, qui ne s'engage pas harmonieusement dans la relation, bien malin serait celui qui pourrait dire celui-ci va devenir autiste, celui-ci va devenir déficitaire, celui-ci va peut-être se normaliser, celui-ci va peut-être devenir dysharmonique. On n'a pas aujourd'hui, il faut être honnête et loyal, on n'a pas aujourd'hui les moyens de faire une telle distinction. Donald Cohen, qui était pourtant connu quand même pour un certain nombre de ses positions organicistes, Donald Cohen aux États-Unis avait d'ailleurs assez tôt parlé pour la première année de vie d'une plateforme de vulnérabilité. C'est-à-dire, au fond, notre action en première année de vie, c'est dans les prises en charge, c'est le premier point important, c'est qu'est-ce qu'on fait en première année de vie ? En première année de vie, on repère les enfants qui ont besoin de nous. Déjà pas mal comme diagnostic. Si on repérait tous les enfants qui ont besoin de nous en première année de vie, sans s'obnubiler sur le fait de savoir s'ils vont devenir autistes ou autre chose, eh bien on serait dans une prévention ouverte et prévenante, et non pas dans une prédiction qui risque parfois d'en rajouter aux difficultés. Alors je ne dis pas du tout que, je ne dis pas du tout que d'étiqueter un enfant autiste à 9 mois ou à 10 mois va créer l'autisme. Je ne le dis pas parce que je ne le pense pas et je ne le crois pas. Mais je pense que si on prononce trop tôt le risque, le terme d'autisme, quand on n'est pas encore sûr de ça, ou même la notion de risque autistique, il y a un certain nombre de parents qui vont être affolés. Parce qu'il se trouve qu'en français, en 2010, le terme d'autisme draine des peurs, des inquiétudes, un sentiment de fatalité, de destin, d'écrasement, hein, par le poids d'une représentation très lourde, et le désarroi interactif qui est induit par ce terme-là vient rajouter encore aux difficultés de base, ne crée pas mais accentue encore le risque de dysfonctionnement interactif. Il faut vraiment être très prudent. Et en première année de vie de l'enfant, quand on a repéré des bébés ou des enfants qui ne s'engagent pas bien dans la relation, ce qu'on a leur proposé n'est pas encore ultra spécifique de la pathologie autistique. Les choses commencent vraiment, bien sûr, à se spécifier dans le courant de la deuxième année de vie. Alors, j'ai envie de dire que dans la deuxième année de vie, puisque tout le monde est à peu près d'accord pour penser que l'autisme infantile représente la forme la plus grave de l'échec de l'accès à l'intersubjectivité, savoir que soi et l'autre, ça fait deux, savoir que soi et l'autre existent de manière distincte, qu'entre soi et l'autre, il y a un écart intersubjectif, eh bien, en deuxième année de vie, en tout cas, une place très importante doit être accordée aux thérapies conjointes parents-bébés. Parce que la différenciation du bébé, l'aide qu'on peut lui apporter à se sentir exister comme une personne qui n'est pas confondue avec les autres et avec le tout, c'est une sorte de prise de champ, de prise de distance, qui pour ne pas être un arrachage, doit se faire en présence des différents protagonistes. Et un certain nombre de techniques se sont développées concernant ces thérapies conjointes parent-bébé ou mère-bébé dans certains cas, pour aider justement le bébé à se construire en se séparant progressivement de l'autre, en se différenciant. C'est plus de la différenciation, de la séparation, sans que ce soit un arrachage, parce qu'on le fait en présence de la mère, en présence des parents. Et puis progressivement, en deuxième, troisième année de vie, vont entrer en piste des mesures d'aide sur le plan rééducatif. Le passer par le corps peut être une très grande aide pour les jeunes enfants, puisque les psychomotriciennes ont des techniques qui leur sont propres pour aider l'enfant à prendre conscience de son unité corporelle, de ses enveloppes corporelles, cutanées et autres. Il y a une très grande aide possible par là. Viendra le temps ensuite des rééducations orthophoniques. Viendra ensuite le temps de la mise à l'école, dans des maternelles bien préparées à cela, je n'y reviens pas. Et puis vient très vite aussi le temps de certaines approches éducatives, on a pas au comportement. mentale, tout le monde a en tête soit le teach, soit l'ABA, soit d'autres techniques plus soft, hein, comme les techniques de floor time, ou les techniques d'échange, les thérapeutiques d'échange et de développement, telles qu'elles ont été développées de manière très fructueuse par l'équipe de Tours, notamment autour de Catherine Barthélémy. Ces techniques rééducatives comportementales ne sont pas si nouvelles que ça. Elles ne sont d'ailleurs pas plus validées que les autres. Nous manquons de validation de tous nos approches d'enfants autistes. Et pourtant, on ne peut pas attendre que tout soit validé avant d'utiliser. Et on sait aujourd'hui qu'un certain nombre d'actions, même ne sont pas validées au sens de l'EBM, l'Evidence-Based Medicine, sont pourtant cliniquement utiles. Et en ce qui concerne les techniques éducatives, personnellement, je pense que tout dépend beaucoup de la personne qui les emploie. Et que si on a affaire à des personnes qui soient vraiment des êtres humains, avec des émotions, une certaine souplesse, une certaine empathie, il y a des aspects de ces techniques teach et ABA qui doivent être très intéressantes, et notamment très intéressantes d'ailleurs dans la formation des AVS, des enseignants que j'évoquais tout à l'heure. Mais vouloir à l'inverse transformer la vie de l'enfant en une séance d'ABA 24 heures sur 24 et faire que ses parents soient ses rééducateurs me paraît de l'ordre du non-sens et de l'excès d'un tout éducatif qui ne peut être que nocif ou nuisible. Donc il n'y a pas de tabou. Quand on a un ennemi aussi grave que l'autisme infantile, on peut essayer de l'attaquer par tous les côtés, mais il faut que tous les côtés soient sollicités. Et pas une seule piste qui ne peut que se montrer plus faible que la pathologie. D'autant plus que la pathologie autistique a une tendance à empêcher de penser, à infiltrer nos actions, nos modèles, nos pratiques. Il y a une attaque sur les liens, comme dit Jacques Ockmann, il y a une force anti-pensée incroyable de l'autisme infantile, une prime au clivage. Donc sur notre premier acte thérapeutique, c'est de ne pas nous cliver les uns les autres et d'apporter à l'enfant, si possible, des réponses, des aides sur ces trois registres, je ne le répéterai jamais assez, de la pédagogie, de l'éducatif et du soi, et chacun dans une dimension non fanatique et non exclusive. Alors le soin psychique, moi, il me semble qu'il reste tout à fait important. L'époque où les psychanalystes pensaient s'attaquer par la psychothérapie de l'enfant à la cause de l'autisme était évidemment tout à fait révolue, et les gens qui inlassablement ressortent les écrits de Bettelheim devraient se moderniser un petit peu. Les psychanalystes actuels, sans compter d'ailleurs que les théories métalliques ont souvent été caricaturées et mal interprétées, mais en tout cas aucun psychanalyste actuel ne se reconnaît dans la vision caricaturale qui est parfois donnée des travaux de Bettelheim. Je crois que depuis l'école kleinienne et post-kleinienne en particulier, les psychanalystes, je pense à Melzer, sont beaucoup moins obsédés par la ou les causes de l'autisme que par les mécanismes, que par l'analyse du type d'angoisse archaïque que manifestent les enfants autistes et très, très obsédés aussi, très investis dans l'analyse des défenses qui sont mises en œuvre à l'encontre de ces angoisses archaïques. Quand chacun a essayé de trouver des terminologies pour ça, hein, les enfants autistes, dans leur matériel de cure, nous figurent des angoisses de précipitation, des angoisses de vidange, des angoisses de liquéfaction, des angoisses de chute sans fin, sans fond, des angoisses de liquéfaction, je crois que je l'ai déjà dit. Des angoisses, vous voyez, qui sont toutes en deçà des angoisses de morcellement de type schizophrénique. Parce que dans l'autisme qui se situe en deçà de la construction du soi et du self, il n'y a rien à morceler. Mais il y a des angoisses très profondes qui sont liées au ratage de la mise en place des enveloppes psychiques. Les enfants nous les figurent dans leur cure. Et ils nous figurent aussi les types de défenses qu'ils essayent, malgré tout, de mettre en place à l'égard de ces angoisses archaïques, par le démantèlement, par le retrait. Voilà, alors, comme je le disais tout à l'heure, pouvoir entrer un petit peu dans le monde interne de l'enfant autiste, pouvoir lui faire sentir qu'on essaye nous-mêmes de se représenter, de partager quelque chose de ce qu'il vit, pouvoir lui faire sentir que nous essayons de nous représenter aussi quelque chose de ses angoisses et de ses mécanismes de défense, eh bien, il me semble que là, et les psychanalystes sont particulièrement bien formés pour le faire, il y a une aide très importante sur le chemin de l'intersubjectivité. Encore une fois, comme le disait Frances Tustin, aider un enfant autiste, c'est, en dépit de tout, lui faire sentir qu'un autre existe, qui n'est pas menaçant, et pas menaçant parce qu'on partage quelque chose de son monde interne. Geneviève Hague insiste beaucoup sur ce partage du monde interne, et dans la saisine 102 du CCNE dont je parlais tout à l'heure, cet axe-là était également souligné comme important. Alors, il y a eu, je vais terminer sur un petit point d'histoire, Brigitte Chamac, sous l'égide de la Fondation de France, a fait un très très gros travail sur l'histoire des relations entre parents et professionnels autour des enfants autistes, et elle montre bien qu'il y a eu plusieurs périodes, une première période où les parents ont été extrêmement actifs auprès des psychanalystes et des psychiatres de l'époque pour mettre en œuvre, pour créer un certain nombre d'institutions dont certaines pour certains hôpitaux de jour. Et puis il y a eu une deuxième période, un peu plus tardivement, dans les 70, 80, 90, où il y a eu ce mouvement très anti-psychanalytique, très anti-Bettelheim, où les parents se sont sentis à juste titre, où ils ont senti effectivement des mises en cause culpabilisantes. J'aimerais penser que c'est plus subjectif qu'objectif. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé à ce moment-là. Je sais qu'on le paye encore, en tout cas. Et aujourd'hui, on est dans une troisième période où les parents, ou certains parents, bien sûr, ce que je dis ne vaut pas pour tous, hein, mais certains parents ne sont pas seulement anti-psychanalytiques, ils sont anti-psychiatriques, en pensant que la psychiatrie n'a rien à dire et rien à apporter aux enfants autistes ou à leur famille. Je terminerai en disant que je suis vraiment tout à fait à l'opposé de cette vision des choses. Je comprends très bien que les parents d'enfants autistes soient plus que bouleversés, submergés par la souffrance qu'ils ressentent chez leur enfant autiste. Mais on ne peut pas aider la souffrance des gens en la niant. On ne fait que l'augmenter. Or, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est certaines tendances, certains mouvements qui laissent penser qu'au fond, être autiste, c'est un mode de vie, un mode d'être au monde comme les autres. Alors, sans doute pas délibérément choisi, mais enfin, un mode d'être au monde un peu comme les autres. Il faut vraiment soit ne pas n'avoir jamais croisé l'enfant autiste, soit ne pas vouloir voir, pour s'apercevoir qu'un enfant autiste est dans un monde terrifiant. Pas toujours, peut-être pas, ça dépend aussi de chaque enfant, peut-être pas 24 heures sur 24, mais il passe par des moments absolument terrifiants, d'angoisse sans nom, d'angoisse catastrophique, des agonies primitives dont je parlais un peu tout à l'heure, qui sont inimaginables. Et pour sortir de cette coquille, pour se protéger, il construit une coquille autistique, et pour sortir de cette coquille autistique, il faut qu'il ait le courage d'affronter le monde extérieur et un certain nombre de souffrances qui vont appartenir à la guérison ou à l'amélioration et non plus à l'autisme proprement dit. Alors je crois que si on néglige ça ou si on banalise ça en disant ben non, être autiste au fond c'est une solution existentielle qui en vaut bien d'autres, on ne peut pas aider les enfants autistes. Et personnellement je pense que non seulement on ratera leurs soins psychiques, mais on ratera aussi leur pédagogie et leur éducation et leur rééducation. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. J'espère avoir fait sentir la position qui est la mienne. Je sais bien qu'avec d'autres collègues que j'admire infiniment, nous sommes sur la liste noire d'un certain nombre d'associations qui plaident pour le tout éducatif. Eh bien, je pense que le tout quelque chose est le signe d'une intolérance et d'un clivage qui ne peut pas être thérapeutique pour aucun enfant autiste. Je vous remercie beaucoup de votre attention.